Croisade, Genèse. Combien de fois n'ai-je eu affaire à un contradicteur invoquant les croisades, pensant ainsi discréditer l'âge d'or de la France et de l'Europe catholique. Le syndrome du perroquet est une véritable pandémie, et si nous l'avons vu à l'œuvre au temps de la tyrannie sanitaire et au début de la guerre fratricide russo-ukrainienne, combien d'avantages ne la subissons-nous pas quand il s'agit pour autrui d'honnir et mépriser le christianisme par une diatribe non étayée et préconçue par les ennemis de la Sainte Église. Par exemple, les sorcières brûlées, la persécution des hérétiques, les papes opulents, les saintes écritures trafiquées, l'horreur des croisades, etc. Quand elles ne sont pas entièrement fausses, ces accusations sont le plus souvent outrageusement amplifiées et servent tout simplement d'excuse aux hommes pour ne pas se soumettre à la discipline salutaire de la saine doctrine du Christ et pour refuser d'emprunter la voie étroite qui mène au ciel, lui préférant la plus large qui mène à l'enfer éternel. Concernant les croisades, nombreux en parlent, mais bien peu les ont étudiés. Je me propose donc de parcourir cette période s'étendant du concile de Clermont en 1095 à la prise de Saint-Jean d'Acre par les infidèles en 1291, afin de mettre en lumière la dimension glorieuse et chevaleresque de cette épopée. Comme à mon habitude, lorsque j'aborde des sujets complexes qui méritent une large analyse, je vous propose une série d'articles afin de ne point omettre des faits essentiels. Aujourd'hui, nous verrons les origines de l'idée de croisade, les différents événements historiques que l'on peut affiliés à cet esprit, et enfin les divers facteurs qui ont rendu cette entreprise nécessaire, juste et légitime. Commençons par parler de l'esprit missionnaire. Notre Seigneur disait « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa triomphante ascension, exhorte ses disciples à répandre la bonne nouvelle et à convertir les païens à la seule vraie religion qui mène au salut. La seule qui est d'institution divine et non humaine. L'occasion de rappeler que l'apostolat n'est pas optionnel. En effet, être chrétien est une grâce ineffable, c'est une délicatesse de Dieu d'avoir permis à notre cœur orgueilleux de nous soumettre à sa loi et à son amour. La vertu théologale de foi est le plus précieux des trésors. Il serait donc égoïste et damnable de vouloir conserver cette grâce pour nous seuls et de ne point chercher à en faire profiter les âmes qui errent loin de Dieu. Voilà pourquoi, dès les premiers siècles du christianisme, le zèle des apôtres et des premiers chrétiens permirent à l'évangile de se répandre de manière si prospère. Saint Paul, embrassant la croix après avoir persécuté les disciples de notre Seigneur, n'aurait jamais trouvé repos en prenant un autre chemin que le sien, celui d'un intrépide apôtre qui a permis tant de conversions par son zèle infatigable. La multiplication des chrétiens dans le monde inquiétait déjà les héritiers des pharisiens, les talmudistes, et c'est pourquoi, main dans la main avec Satan, leur maître, ils se sont fait un perpétuel devoir de susciter, financer et promotionner des hérésies. La réponse du serpent. C'est la malignité des hérétiques qui oblige à exposer au risque du langage humain ce qu'il aurait fallu tenir renfermé dans la religion de nos âmes. Saint Hilaire de Poitiers. Pélagianisme, nestorianisme, arianisme, monophysisme, gnose, manichéisme, marcionisme, donatisme, islam, qui est un arianisme qui a réussi, et plus tard protestantisme et jansénisme, voici les réponses du serpent à l'agneau. Il est le singe de Dieu, et ses mensonges se parent toujours de quelques vérités pour les faire passer. Il est bien sûr un signe infaillible de la nature divine de la Sainte Église que sa pérennité et son magistère constant et cohérent, du moins jusqu'en 1962. Mais il est aussi vrai, comme nous le rappelait souvent Monseigneur Lefebvre, que l'erreur est plus facile à répandre que la vérité, pour la simple et bonne raison que la vérité est contraignante et implique des sacrifices pour conformer sa vie à elle. Par exemple, il est plus aisé de faire entendre à quelques membres d'une fausse religion, suivez mon regard, qu'on peut divorcer de sa femme ou encore en avoir plusieurs, que de l'enjoindre à rester fidèle, dans la prospérité comme dans la sécheresse, dans l'amour comme dans la haine, dans la sérénité comme dans la tempête. Il est aussi plus facile de faire embrasser une doctrine, aussi fausse fût-elle, qui prétend que la foi seule sauve, qu'une qui nous appelle sans cesse à la conversion, à la mortification, au sacrifice, au renoncement à nous-mêmes pour progresser dans la vertu. Il est plus confortable, et cela est plus que jamais d'actualité, de se faire sa propre religion à la carte, à la seule lumière de notre conscience biaisée par l'orgueil lié au péché originel, où l'on élimine arbitrairement toute contrainte qui coûte trop à notre sacro-sainte volonté. Chasteté avant le mariage, assistance à la messe dominicale, confession régulière, etc. Voilà pourquoi les hérésies ont tant de succès et pullulent à ce point. Heureusement, comme le disait le cardinal Pie, l'Église ne met jamais mieux en avant la vérité qu'en condamnant les erreurs contraires. Et c'est pourquoi les entreprises du diable ont finalement pour effet involontaire de permettre à l'Église d'affermir et d'expliciter davantage la suave beauté et la parfaite justice de la doctrine de notre Seigneur. Du 1er siècle à la période qui nous intéresse, notre histoire fut marquée par les missions, les joutes théologiques pour remettre l'erreur à sa place et faire tomber dans l'oubli certains courants dangereux pour le salut des âmes, et quand les circonstances obligeaient, par des luttes guerrières pour le règne de notre Seigneur sur les sociétés. Le royaume des Francs a bien sûr été marqué par l'invasion islamiste au 8e siècle, et c'est bien par les armes que nous fûmes sauvés de ce fléau. En 686, naquit Charles Martel, fils de Pépin II dit Pépin d'Herstal. Il descend en ligne directe des mères du palais, qui durant le 7e siècle régnaient en lieu et place des rois fainéants, Thierry III, Clovis IV, Childebert III, Dagobert II, Chilpéric II, Thierry IV et enfin Childeric III. Charles Martel prend le pouvoir en 714, mais il est mis en prison par sa belle-mère à Cologne, d'où il s'échappera en 716 pour monter une armée afin de combattre les Neustriens et les Frisons. Il se distingue par une grande victoire à la bataille d'Amblève. Il se choisit ensuite un roi factice en la personne de Clotaire IV, fils de Thierry III, mais c'est lui qui prend réellement les rênes de notre royaume. Le 11 octobre 719, il s'impose à Néry face à Chilpéric et Raganfred, soutenu par Eudes, duc d'Aquitaine, mettant fin aux luttes intestines pour le pouvoir. C'est sous son règne que le moine Boniface, mandaté par sa sainteté Grégoire II, évangélise, avec son accord, la Saxe, la Bavière, la Thuringe et la Frise. La relation de Charles Martel avec la Sainte Église est difficile à lire, car il a à la fois négligé à chercher la vertu et la bonne formation théologique, et s'est montré négligent dans le choix des évêques français, mais il a par ailleurs fait de grandes faveurs aux missions par des dons pécuniers et fonciers, et il a bien sûr signé sa plus célèbre et salutaire victoire face aux infidèles d'Abdelhaman près de Poitiers, du 18 octobre au 28 octobre 732. Après avoir mis fin à la percée islamiste en coissant Abdelhaman sur la route de Tours, il entreprit une campagne dans le Languedoc, en Bourgogne et en Provence, pour définitivement bouter les Arabes hors de France. Il faut reconnaître que l'épopée des Sarrasins est prodigieuse. Un siècle à peine après la prédication du faux prophète Mohammed, ils avaient déjà conquis la quasi-totalité de l'Afrique du Nord, toute l'Espagne, anciennement arienne, ce qui n'est pas anodin, et une partie considérable du sud de la France avant que le marteau de notre chef ne s'abatte sur leur armée. Charles Martel meurt le 15 octobre 741. Son fils, l'illustre Pépin III, père de Charlemagne, se fera enterrer face contre terre pour expier les crimes de son père et sa désobéissance vis-à-vis de la Sainte Église. Cependant, il reste un pilier et une figure de notre roman national, et son intervention n'a pas seulement sauvé la France de l'hydre islamiste, mais bien toute l'Europe. N'oublions pas que l'homme combat et le Seigneur donne la victoire, rendons alors gloire à lui seul. Pépin III, dit le Grand ou le Bref, et à sa suite Charlemagne, continueront la croisade contre l'islam. La France essuiera une regrettable défaite à Roncevaux en 778, mais remportera la victoire à Barcelone en 804. L'Espagne restera, elle, opprimée par le joug des infidèles, jusqu'à la Reconquista parachevée par Isabelle la Catholique au XVe siècle. Le siècle grégorien. C'est en 1063, 32 ans avant le fameux concile de Clermont, que le pape Alexandre II déclare que les chevaliers combattant en Espagne sont à son service. Il encourage cette louable volonté de reconquête de l'Espagne par les catholiques. Le célèbre Grégoire VII, dont le pontificat s'étend de 1073 à 1088, lui succède. C'est à lui qu'on doit la réforme grégorienne, qui a influencé le mouvement canonial qui a vu naître les chanoines. Les chanoines sont des prêtres vivant en communauté. Sa sainteté fut zélée dans son entreprise, consistant à lutter contre la simonie, qui consiste à devenir évêque sans vocation, dans le seul but de jouir des biens temporels attachés à la fonction. Il a lutté également contre la corruption, et les mauvaises mœurs se déclarent. Il entame la centralisation de l'Église romaine, et c'est alors qu'après ce prodigieux travail, un pape français lui succède en la personne d'Urbain II, élu par le conclave en 1088. C'est ce dernier qui excommuniera notre roi Philippe Ier pour adultère et jettera l'interdit sur le royaume des Francs. En effet, à chaque fois que le roi passait dans un village, toute vie religieuse s'interrompait, les cloches ne sonnaient plus, les clercs cessaient leurs offices et on ne célébrait plus la Sainte Messe. Ils finirent par se réconcilier en 1104, quand le roi accepta de renoncer à Bertrade, sa maîtresse. Louis VI, dit le Pieux, son successeur, s'attela encore davantage à l'apaisement des tensions entre le royaume des Francs et sa mère, la Sainte Église. C'est en cette période que naquit Saint Bernard, en 1090, à Fontaine-lès-Dijon. nous aurons l'occasion de revenir sur la vie de ce grand saint et sur son rôle capital dans l'instigation de la deuxième croisade. C'est donc dans un contexte d'un essor prodigieux du monachisme, d'une monarchie franque chaque jour plus solide et d'une relation enfin apaisée entre Rome et sa fille aînée que va intervenir le concile de Clermont en 1095, concile qui marquera le début du temps des croisades. L'Espagne est encore aux mains des infidèles, les chrétiens pèlerinant à Jérusalem sont capturés et réduits en esclavage par les Turcs seldjoukides, dont l'ambition est de tout bonnement fermer la route de la ville sainte aux disciples du Christ. Les catholiques de Syrie et de Palestine persécutés appellent le roi de France et le Saint-Père au secours. Voilà tant de raisons qui justifient et légitimisent l'intervention des croisés. Rendez-vous mercredi 29 mars pour la suite de ce dossier où je m'intéresserai à la période s'étendant du concile de Clermont à la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon et ses hommes. D'ici là, que Dieu vous garde. Vous pouvez retrouver mes articles sur dieulafranceetleroi.fr.